Bienvenue aujourd'hui dans Union et Désunion, l'émission qui parle d'Europe, présentée par Ulysse Gounel et Nathan Dordefin-Trosweg. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets d'actualité, l'Iran et l'Ukraine. Bonjour Ulysse.
Bonjour Nathan et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Nathan qui, comme à l'accoutumée, va démonter une idée reçue sur l'Europe en lien cette fois-ci avec la guerre en Ukraine.
Merci Ulysse. Alors que Trump déstabilise le Moyen-Orient, un autre conflit se déroule sur notre continent et continue de diviser l'Europe. C'est bien sûr la guerre en Ukraine. Depuis 4 ans, les Ukrainiens résistent avec courage à l'invasion russe. Pourtant, certains en Europe préféraient l'asservissement et veulent ployer le genou devant le Kremlin. Ce sont ces derniers sûrement qui ont lancé l'idée que nous allons débunker aujourd'hui. L'aide à l'Ukraine coûte trop cher, c'est l'argent des contribuables qui part en fumée. Mais alors, qu'en est-il vraiment? D'où vient cet argent? Comment est-il utilisé? Et surtout, est-ce un investissement contrôlé ou un trou sans fond? Alors, spoiler, la réalité est bien plus nuancée que ce que laissent entendre les slogans pro-russes. On va démêler le vrai du faux avec des chiffres et des mécanismes concrets. Donc, commençons par le nerf de la guerre. D'où vient l'argent? La réponse, elle est claire. Pas de vos impôts. Enfin, pas totalement. L'aide à l'Ukraine provient de plusieurs instruments. Tout d'abord, ce qu'on appelle, en langage de l'Union européenne, la réserve pour l'Ukraine. Celle-ci représente 33 milliards et est intégrée au budget annuel de l'Union européenne. Ce budget, il est alimenté par des droits de douane, une partie de la TVA et des contributions nationales. Mais il n'y a pas de hausse qui est dédiée à cette aide-là. Ce budget-là, il est voté par le Parlement européen et aussi par les ministres des États membres. Ainsi, ce n'est pas réellement un chèque en blanc, une décision de la Commission, mais vraiment un processus démocratique et transparent. Ensuite, un second outil vient des emprunts. Donc ça, on en parle beaucoup en ce moment. Pour 2026-2027, l'Union européenne aimerait bien emprunter 90 milliards d'euros sur les marchés et un emprunt qui serait garanti par le budget européen. Les intérêts, qui seraient estimés entre 1 et 3 milliards d'euros par an, seront couverts par le même budget. Et ce seraient les États membres qui auraient la charge de ces 1 à 3 milliards d'euros. Ça ne serait pas un impact direct sur le contribuable. Et surtout, ces prêts-là seraient remboursés par l'Ukraine à la fin de la guerre. Ensuite, il y a d'autres sources de financement qui se trouvent principalement dans les intérêts générés par les avoirs russes gelés en Europe. Donc les avoirs russes, c'est globalement l'argent russe qui reste en Europe mais qui continue de générer chaque année de l'argent. Et cet argent-là est utilisé pour l'Ukraine. Ainsi que des prêts et des aides qui sont directement faits par les États, donc où l'Union européenne ne joue pas un rôle. Mais alors, attention, ces fonds-là ne sont pas des dons sans contrepartie. C'est un circuit vertueux et contrôlé. Les fonds alloués par des pays comme la France ou les Pays-Bas pour la reconstruction sont principalement utilisés par des entreprises européennes. Par exemple, les contrats de reconstruction qui sont faits avec l'argent des Français sont attribués à des sociétés françaises et donc sous contrôle strict. C'est donc en fait un sorte de circuit court. C'est un soutien direct à notre propre économie. De plus, la transparence est de mise. On sait bien que dans tout système, il peut y avoir de la corruption, surtout actuellement en Ukraine dans un système en guerre. Et on n'a que regarder qu'en France, dans une démocratie qui fonctionne plus ou moins, les 4 millions d'euros détournés par le Rassemblement national. Ainsi, une commission européenne des comptes vérifie l'efficacité des systèmes ukrainiens avec des audits réguliers sur place. Donc, ils veulent que chaque euro soit traçable. De plus, des programmes comme Facilité pour l'Ukraine, encore du jargon européen, donc les fameux 33 milliards d'euros, sont aussi conditionnés à des réformes démocratiques, à des réformes de l'état de droit et au respect des droits humains. S'il n'y a pas de progrès, s'il n'y a pas ce respect-là de la démocratie, il n'y a pas d'argent. Ensuite, c'est un soutien qui nous rapporte aussi à nous, citoyens. L'aide à l'Ukraine ce n'est pas seulement une question de solidarité, c'est aussi un investissement stratégique. Avec l'Ukraine, nous avons pu faire des accords commerciaux qui vont booster les échanges qu'on a entre l'Europe et l'Ukraine. Ce qu'on a très souvent entendu, c'est notamment sur les produits agricoles ukrainiens. C'était très débattu, mais globalement, l'idée, c'est que l'Ukraine va importer une partie de ses grains dans l'Union européenne. Donc ça, effectivement, c'est lié à des quotas pour protéger nos agriculteurs. Mais c'est aussi les corridors de sécurité. C'est-à-dire que l'Ukraine peut exporter ses biens via l'Union européenne, sans vendre dans l'Union européenne, à l'étranger. Donc par exemple, faire en sorte que des pays comme l'Égypte, comme l'Algérie, qui dépendaient beaucoup du grain ukrainien, puissent continuer à en avoir. Ensuite, nos entreprises elles-mêmes ont des débouchés en Ukraine. Notamment, on a parlé de la reconstruction, mais aussi dans des coopérations avec les entreprises ukrainiennes. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, notamment avec toutes ces aides-là et tous ces accords, c'est que les bénéfices tirés de ces accords commerciaux, notamment des corridors de sécurité, sont soustraits de nos aides. Donc, par exemple, si l'Ukraine gagne 10 milliards avec les surplus qu'ils gagnent sur leur exportation de blé, ça fera 10 milliards en moins que nous, on leur prêtera ou qu'on leur fera en don. Enfin, une faillite en Ukraine pourrait signifier, un, des millions de réfugiés supplémentaires, deux, une crise économique à minima en Europe, et trois, une déstabilisation du Moyen-Orient et une famine au Moyen-Orient. Ce qui ferait, pour les personnes qui ont une crainte pour l'immigration, une très grande vague d'immigration vers l'Europe. Ensuite, rentrons dans le cœur du sujet. Alors, au final, après toutes ces informations-là, combien coûte réellement cette aide? Alors, j'ai essayé de faire une estimation. Si on additionne les dons en argent et en matériel militaire qui sont souvent tirés de nos stocks anciens et qui ne nous ont pas coûté d'argent à court terme, cela représente environ 10 milliards d'euros. Ajoutez à cela 3 milliards d'euros d'intérêts payés chaque année pour les prêts et on arrive au total pour l'instant de 13 milliards d'euros réellement payés, c'est-à-dire qui ne sont pas des prêts, qui ne seront pas remboursés et qui ne sont pas des intérêts. Donc ça, c'est réellement tiré de du porte-monnaie des Français et des Européens en général. Maintenant, on divise ce montant par le nombre d'Européens, parce que cet argent-là est divisé par les pays européens. Eh bien, après un petit calcul, cela reviendrait environ à 7 euros par an et par citoyen. Alors, personnellement, c'est débattable, bien sûr, mais 7 euros pour éviter une crise humanitaire, économique et géopolitique majeure, je trouve que ça va. Pour remettre ça en perspective, rappelons que les Américains ont soutenu le Royaume-Uni face au Reich nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis au Royaume-Uni de tenir et après la guerre de se reconstruire plus facilement. Alors aujourd'hui, c'est notre tour, je pense, en tant qu'Europe, de soutenir un pays qui se bat pour sa liberté et pour la stabilité de notre propre continent. Alors, l'aide en Ukraine, ça coûte cher. Oui, mais beaucoup moins qu'on ne le croit. Et surtout, bien moins cher que l'alternative. C'est un investissement contrôlé, conditionnel et qui profite aussi à l'Europe. La question n'est pas combien ça coûte, mais que coûte la paix et la sécurité.
Merci beaucoup Nathan pour ce bon rappel. Effectivement, la guerre en Ukraine est une guerre existentielle pour l'Europe, comme tu as pu le rappeler. Si l'Ukraine perd, c'est toute l'Europe qui perd. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances que si la Russie gagne en Ukraine, elle ne s'arrête pas seulement à ce pays. Elle a déjà fait savoir plus ou moins officiellement que des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, donc les pays baltiques, étaient bien mieux à l'époque de l'URSS quand ils étaient sous la coupe de Moscou. On sait donc que la Russie serait tentée d'aller chercher le territoire d'autres pays. C'est pour ça aussi que c'est absolument essentiel de soutenir l'effort de guerre ukrainien. Et comme tu l'as rappelé, 7 euros par an, par personne, c'est vraiment minime, parce que même si on divise ça par le nombre de mois dans l'année, c'est-à-dire que ça fait moins d'un euro par mois, moins d'une baguette par mois, donc, au final, une demi-baguette par mois pour l'Ukraine, je pense qu'on peut se le permettre. Et tu as effectivement parlé aussi du risque, s'il y a une défaite ukrainienne de l'immigration, et tu as parlé aussi de la crise que ça pourrait mener au Moyen-Orient, parce qu'effectivement, Moyen-Orient dépend beaucoup du blé ukrainien. Ce sujet du blé est quand même très important au niveau de l'Ukraine, puisque c'est le réservoir de blé aussi presque pour le monde entier, et ce blé se fait pilonner par des missiles. Il y a aussi des drones qui passent, qui répandent leurs fils de fibre optique sur tous les champs. Et donc, ça pose aussi de grandes questions sur l'avenir pour la reconstruction de l'Ukraine quand ce conflit se terminera. On espère que ce soit le plus vite possible, évidemment, pour les populations citoyennes. Mais comment reconstruire toute cette agriculture, toutes les infrastructures pour permettre au pays de se relever?
Exactement. Et c'est pour ça aussi que je trouvais assez important de parler donc, de ce corridor de sécurité et notamment de l'accord sur le grain, parce que c'est ce fameux accord a poussé de nombreux agriculteurs à venir manifester à Bruxelles pour de la concurrence déloyale, etc., etc. Mais c'était aussi par une très grande mécompréhension de cet accord. Effectivement, il pouvait y avoir un danger, mais ce serait un danger qui serait extrêmement minime. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des mesures de protection qui avaient été actées, notamment dans les quotas, notamment contre la concurrence déloyale, etc., etc., pour protéger nos agriculteurs, ce qui est quand même très important. Et la majorité de l'accord concernait surtout du blé qui passait en Europe sans s'y arrêter. Donc en réalité, ce blé-là, il serait allé vers des pays où nous-mêmes en Europe, on n'exporte pas trop, parce que nous ne sommes pas non plus des énormes exportateurs de blé, pour le coup, ou de ces matières ukrainiennes, et ces exportations iraient donc la plupart du temps aux pays du Moyen-Orient, comme je l'ai cité, l'Égypte, encore l'Algérie. Et surtout, comme je l'ai dit, et ça je tiens à appuyer dessus, le fait qu'il y ait eu toutes ces manifestations-là qui ont poussé, bon c'est la démocratie bien entendu, mais qui ont poussé la Commission et le Parlement à durcir cet accord-là, ce qui ont fait qu'ils ont baissé les quotas, a fait qu'en fait, au final, on a dû payer plus. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais comme je l'ai expliqué, sur les bénéfices que l'Ukraine s'est fait sur ces accords-là, ont été enlevés des aides que nous leur avons promis. Et donc, comme leurs bénéfices étaient plus petits, nous, on a dû augmenter les aides. Donc, au final, un risque qui était quand même assez minime pour nos agriculteurs a fait, dû à la désinformation, qu'on a dû payer plus. Et ça, tout le monde. Donc ça, il faut le compter. Et ensuite, dans le chiffre même des 7 euros par citoyen, j'ai compté les aides militaires. Et les aides militaires, sont, très souvent, n'ont pas été produites pour ça. Ce sont des aides militaires qu'on avait en stock. Il nous restait en France les vieux FAMAS qui dataient d'avant de changer nos armes. Il restait des anciens casques, des gilets pare-balles, etc. Et c'est ça qu'on envoyait en premier à l'Ukraine et massivement à l'Ukraine.
Oui, voilà. Tu me rappelles bien qu'il y a aussi cette question de la propagande russe, parce qu'effectivement, la Russie essaye de diviser les partis politiques en Europe sur cette question, et les citoyens aussi, leur faire croire que l'aide à l'Ukraine les dépouille d'un argent dont ils ont besoin, parce qu'il y a des problèmes de finances publiques aussi en Europe, très marqués, mais c'est vraiment une opération de propagande qui vise à nous faire croire qu'on ne peut pas soutenir l'Ukraine, qu'on ne peut pas permettre à l'Ukraine de gagner, alors que cette opération, on le rappelle, hein, devait durer 5 jours à la base en 2022, on est 4 ans après, le peuple ukrainien résiste encore héroïquement à cette guerre, a réussi à défendre la très grande partie de son territoire, et montre chaque jour sa résilience, sa capacité à vivre malgré les bombardements incessants, malgré les combats dans les tranchées sur le front. Et on voit notamment la force de la société civile ukrainienne par de nombreuses associations et ONG qui vont enquêter par exemple sur les crimes de guerre, comme le Centre pour les libertés civiles de Kiev, et de nombreuses autres organisations très fortes qui organisent aussi par exemple l'arrivée, le départ d'Ukraine et l'arrivée dans d'autres pays des réfugiés, pouvoir s'organiser aussi pour renvoyer du soutien en Ukraine. Bref, la société ukrainienne est tout simplement inspirante chaque jour.
Exactement. Et très rapidement sur la corruption, il faut savoir qu'on a entendu des affaires de corruption qui sont sorties d'Ukraine, mais c'est une bonne chose qu'on a entendu parler. Parce que la corruption est mauvaise quand on n'en entend pas parler. C'est quand on n'entend pas parler de corruption que très souvent il y en a. Par exemple, en Russie, il y a très peu d'affaires de corruption, bizarrement. Néanmoins, les ONG et les spécialistes sur le sujet sont tous d'accord pour pour dire que c'est un pays extrêmement corrompu. En Ukraine, la société civile et les institutions, notamment par leur adaptation pour entrer dans l'Union européenne, permet cette lutte contre la corruption. Mais donc, nous allons passer maintenant à notre chronique sur l'actualité qui, je crois, va se dérouler sur ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient et notamment en Iran.
Exactement. Merci pour la transition. Effectivement, on va passer d'une guerre à l'autre, celle-ci beaucoup plus récente, puisque, comme vous le savez, depuis notre dernière émission, une guerre a commencé au Moyen-Orient. Elle a été directement déclenchée par Donald Trump avec le lancement de l'opération Fureur Épique le 28 février dernier. Et donc, cette guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël embrase le Moyen-Orient et déstabilise le monde entier. L'Europe est directement concernée dans ce conflit, et pourtant, elle rechigne à prendre des actions concrètes. Bon, il faut bien sûr rappeler que cette critique de l'inaction européenne ne doit pas être interprétée comme une volonté d'intervention militaire directe de la part de nos dirigeants. Cependant, ce conflit nous concerne beaucoup plus que ce que l'on peut penser. D'abord, le territoire européen a été touché par des drones d'attaque. Chypre, une île de la Méditerranée orientale, membre de notre Union européenne, a sur son territoire une base britannique, et cette base britannique a été touchée le 2 mars par un drone. Alors depuis, il a pu être montré que la frappe n'était pas originaire de l'Iran, mais de son proxy libanais, le Hezbollah, mais c'est quand même une émanation du régime iranien. D'une manière plus globale, l'Iran a choisi, en représailles des frappes qu'il a subies, de bombarder toute la zone géographique du Moyen-Orient et ne se préoccupe guère des clauses de défense commune de l'Union européenne. Et des bases européennes également, dans la péninsule arabique, ont été touchées par l'Iran, comme la base navale française à Abu Dhabi. De plus, ce conflit pose un gros problème en termes d'énergie et pourrait causer donc un choc au niveau mondial. Des millions de barils de pétrole transitent chaque jour par le détroit d'Ormuz, cette petite bande de mer entre l'Iran, Oman et les Émirats Arabes Unis, soit 20% du commerce mondial de pétrole, et le détroit est également clé pour le gaz naturel liquide et les engrais. L'Iran a annoncé sa fermeture et n'a pas hésité à attaquer les bateaux tentant tout de même la traversée. Ils ont commencé à miner ce détroit et maintenant ont annoncé une réouverture partielle, notamment pour pouvoir acheminer du pétrole vers la Chine. Et des pays dont l'économie repose fortement sur l'exportation de gaz, comme le Qatar, ont annoncé l'arrêt de leur production. Ainsi, il y a un sérieux risque d'une forte augmentation des prix à la pompe et de manque de ressources énergétiques. Le Moyen-Orient représentait en 2024 11,9% des importations françaises de pétrole et certains économistes projettent une augmentation du prix du baril à plus de $200, c'est-à-dire un doublement vis-à-vis de son niveau aujourd'hui. Alors que faire dans tout cela? La première chose serait de trouver une voie commune. Ce conflit souligne une nouvelle fois la difficulté qu'a l'Union européenne à se coordonner sur sa politique extérieure. Jusqu'ici, les seules réactions ont été nationales. Certains pays condamnent les États-Unis, d'autres l'Iran, d'autres ont une position plus balancée. La France a choisi d'envoyer son porte-avions en Méditerranée orientale et de contribuer à la défense de ses alliés, mais l'Union européenne est restée assez silencieuse sur ce conflit. L'Espagne, qui a fortement critiqué le déclenchement de cette guerre, a rapidement été isolée diplomatiquement, n'étant pas soutenue notamment par l'Allemagne, dont le chancelier Friedrich Merz était pourtant en visite à Washington. On voit donc encore une fois que le premier réflexe est la réaction nationale, individuelle, sans se préoccuper d'adopter une vision cohérente à travers l'Europe. Si on souhaite un jour avoir une réelle union politique, et un poids dans la balance globale. Si on souhaite un jour peut-être même avoir une union de défense, une armée européenne, il faudra bien décider de nos actions communes, de nos opérations dans le cas d'une armée. Et donc dans ce cas-là, il serait nécessaire d'avoir une ligne commune sur les affaires étrangères. Mais la question, c'est est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, et surtout comment faire pour y arriver?
Très bonne analyse et je pense très grande question. Mais ce qui est clair, c'est que la situation au Moyen-Orient montre globalement les limites de l'Union européenne. Par exemple, tu as cité Friedrich Merz. Pourquoi l'Allemagne a beaucoup aussi de difficultés à se baser sur ce conflit-là et pourquoi ils sont assez proches des États-Unis, c'est parce que l'Allemagne a cette tradition de l'OTAN, à ce traumatisme de ce qu'ils ont fait durant la Seconde Guerre mondiale. Et notamment, ils ont une sorte de relation de culpabilité avec Israël, ce qui fait qu'ils ont du mal à aller contre eux. Idem avec les États-Unis, le nombre de bases américaines présentes en Allemagne, le fait que la défense allemande a été très longtemps insignifiante due à la présence américaine, fait que Merz est assez mal positionné. Et surtout maintenant, avec Donald Trump, qui utilise la moindre faiblesse dans les dirigeants pour pouvoir appuyer ses positions, une position comme telle de l'Allemagne fait en sorte que l'Allemagne garde son statut de vassal aux États-Unis, ce que nous, on avait en Europe pendant très longtemps. Là, la question, c'est surtout, est-ce que on arriverait à avoir un cri d'indépendance, notamment avec cette guerre? Ce que je tiens aussi à rajouter, c'est que pour une fois, le président français Emmanuel Macron a eu globalement une des réactions les plus proportionnées à ce conflit-là. C'est-à-dire pas une condamnation totale du conflit, puisqu'effectivement, il y a des bases, notamment avec le régime iranien, qu'on ne peut que condamner, mais aussi en affirmant la puissance nécessaire, le réarmement européen et l'unité européenne, et une intervention pour la protection de nos hommes. Je pense notamment aux militaires français tombés pour la patrie il y a quelques jours, mais aussi pour protéger nos alliés, notamment à Chypre. Donc pour l'instant, ça me semble en tout cas être la réponse la plus proportionnée.
Oui, tu soulignes bien, mais le problème aussi en politique, c'est qu'il faut d'une part avoir raison et d'autre part avoir raison au bon moment. Et actuellement, Macron est assez isolé sur la scène internationale et européenne aussi, avec une forme de recomposition des alliances, Merz qui se tourne de plus en plus vers Meloni, donc un axe Allemagne-Italie qui se reforme un peu. Est-ce que dans cette situation-là, la parole de la France peut vraiment peser, peut-être pousser à plus d'union européenne, ou alors est-ce que justement ça va être réinterprété comme souvent, comme une volonté de reprendre la domination sur l'Europe par la France? Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est une question ouverte.
C'est une question effectivement très compliquée. De toute façon, le rôle effectif que Macron va pouvoir jouer va être assez limité, puisque dans un an, il y aura les présidentielles et on peut se retrouver actuellement, ça a l'air le plus probable, avec une présidence de Jordan Bardella, qui lui, à minima, rejoindrait une ligne méloniste, voire une ligne Orban, c'est-à-dire un rapprochement de la Russie avec la Russie. Retour vers une vassalisation avec Donald Trump et l'enterrement définitif du projet européen. C'est-à-dire que c'est ces projets-là. Et dans mon analyse, c'est exactement ce qui va se passer. Et surtout sur ce qui se passe actuellement en Iran, le Rassemblement national, globalement, ont pris la position pro-Trump. Ce n'est pas étonnant. C'est globalement la position. Ils se basent aussi, ils l'utilisent comme plus ou moins islamophobe, mais c'est leur position. Et ils vont continuer dans cet axe-là. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que cette question divise, que ce soit dans les partis politiques jusqu'à dans les universités. Et d'un côté, il y a ceux à l'extrême gauche qui crient de l'islamophobie et la chute d'un régime qui va aller vers le pire. Et de l'autre côté, il y a ceux qui crient vers une grande victoire pour la démocratie, alors que globalement, ce qui risquerait à minima d'arriver, c'est un maintien du régime et une répression bien plus accentuée sur la population locale, et sûrement pas un changement. Et si changement il y a, il sera suivi d'une guerre civile.
Oui, d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela au début de l'année, avec Donald Trump qui crie victoire tout de suite, suite à l'enlèvement de Maduro et son extradition jusqu'à New York pour se faire juger. Mais le régime chaviste au Venezuela est bien, bel et bien encore en place, avec la vice-présidente de Maduro qui est devenue présidente, et un régime qui tient, simplement qui vend son pétrole aux entreprises américaines, mais sinon il n'y a eu aucun changement. Et en Iran, c'est le fils de Khamenei qui a pris sa succession. Mais par exemple, la situation des femmes ne s'est pas du tout améliorée, la situation des oppositions ne s'est pas améliorée, et donc on se demande un peu s'il y avait vraiment un objectif sincère de la part de Donald Trump de changement de régime, ou alors est-ce que c'est une nouvelle fois pour servir ses intérêts. Je pense que ce serait cynique, voire complotiste, de dire que c'est pour permettre à la Russie de se redresser, puisque ce conflit en Iran permet à la Russie de commencer à revendre du pétrole, puisque elle a des ressources qui ne sont pas bloquées dans ce détroit d'Ormuz, donc elle peut les vendre facilement. Mais en tout cas, ça fait se questionner sur les objectifs des États-Unis en Iran qui n'ont pas été énoncés, et ce qui laisse penser aussi que c'est un conflit qui peut s'éterniser. Parce que, comme toujours, un conflit, quand on ne sait pas quels sont les objectifs recherchés, eh bien, peut être prolongé à l'éternité. C'est ce qu'on a vu en Irak en 2003, en Afghanistan en 2001, où les États-Unis sont restés pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années sur ce territoire. Mais en tout cas, la question, c'est est-ce que l'Europe, dans tout ça, va réussir à avoir une voix forte? Et c'est la question épineuse du moment, comme toujours.
Exactement. Et juste avant de clore notre émission, je tiendrai à rappeler un exemple probant. C'est la première guerre du Golfe en Irak, au Koweït, où les États-Unis avaient cru, en détruisant la majorité des forces du régime de Saddam Hussein à cette époque-là, que la population allait se soulever. Sauf que la population, en partie, s'est soulevée, sans aide extérieure, s'est fait massacrer, et le régime est resté en place jusqu'à la seconde guerre du Golfe en 2003. Et je pense que globalement, c'est ça qui va arriver avec l'Iran maintenant.
Ouais, c'est un bon rappel que la fin de la guerre ne veut pas forcément dire la paix, et qu'il y a des nuances bien plus fortes que ça, et que pour assurer la paix, il faut avoir un soutien aux sociétés civiles, une démocratisation, et surtout permettre un climat interne dans ces pays qui soit réellement paisible. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette septième émission d'Europe, Union et Désunion. Nous espérons que l'écoute aura été agréable et que l'Union européenne ainsi racontée devient tout à coup plus intéressante. Nous vous souhaitons une année pleine d'Europe et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à partager celle-ci sur les réseaux sociaux ou à vos proches et surtout, soyez européens.